quelques passages dans l'évangile de Luc. Tout d'abord, au chapitre 21. Il passait les jours dans le temple à enseigner, et les nuits, il sortait et demeurait dans la montagne qui est appelée des Oliviers. Et tout le peuple des points du jour venait à lui dans le temple pour l'entendre. Au chapitre 22, verset 39. Et sortant, il s'en alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Et les disciples aussi le suivirent, et quand il fut dans ce lieu-là, et leur dit, priez que vous n'entriez pas en tentation. Il s'éloigna d'eux lui-même environ d'un jet de pierre, s'étant mis à genoux, il priait, disant, Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Et un ange du ciel lui apparut, le fortifiant. Étant dans l'angoisse du combat, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant sur la terre. Au chapitre 23, verset 20, Pilate donc s'adressa de nouveau à eux, désirant relâcher Jésus. Mais il s'écriait, disant, crucifie-le. Il leur dit pour la troisième fois, mais quel mal celui-ci a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui soit digne de mort, en l'ayant donc châtié, je le relâcherai. Mais ils insistaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris et ceux des principaux sacrificateurs eurent le dessus. Et Pilate prononça que ce qu'il demandait lui fait, et il relâcha celui qui, pour sédition et pour meurtre, avait été jeté en prison, lequel il demandait, et il livra Jésus à leur volonté. Et comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon, cyrénéen, qui venait des champs, et le chargèrent de la croix pour la porter après Jésus. Et une grande multitude du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et le pleuraient, le suivaient. Verset 33. Et quand ils furent venus au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à la gauche. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ayant fait le partage, ses vêtements tirèrent au sort, et le peuple se tenait là, regardant, et les gouverneurs aussi se raillaient de lui avec eux, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, si lui est le Christ, l'élu de Dieu. Et les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, lui présentant du vinaigre et disant, « Si toi tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même » Il y avait aussi au-dessus de lui un écriteau en lettres grecques, romaines, hébraïques. « Celui-ci est le roi des Juifs. » Et l'un des malfaiteurs qui était pendu l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ, toi ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre répondant le reprit, disant, « Et tu ne crains pas Dieu, toi, car tu es sous le même jugement. Et pour nous, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire. » Elle disait à Jésus, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Or, il était environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la neuvième heure. Et le soleil fut obscurci, et le voile du temple se déchira par milieu, et Jésus, criant à haute voix, dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il expira. Et le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, disant, en vérité, cet homme était juste. Nous avons dans ces quelques versets que nous avons lus en sautant l'un d'autres passages, nous aurions pu considérer aussi dans l'intervalle, nous avons les dernier pas de Jésus avant et jusqu'à sa crucifixion. Non pas les derniers pas dans son ministère. Parce que nous savons, si nous nous référons au chapitre premier du livre des Actes, et à ce que Pierre, l'apôtre Pierre, dit dans son premier discours relativement au service du Seigneur, à son entrée et à sa sortie, et que justement ce ministère est compris entre son baptême, nous trouvons au début de cet évangile de Luc, entre son baptême et son élévation dans la gloire. Son ministère ne s'est pas terminé avec la crucifixion, avec sa mort et sa résurrection. Son ministère ici-bas s'est prolongé encore 40 jours. Et en particulier dans l'évangile de Luc, dans cet évangile au chapitre 24, nous voyons le Seigneur ouvrir en quelque sorte la parenthèse de son absence, en anticipant lui-même sur ce que sera tout à l'heure le ministère du Saint-Esprit, à partir du moment où il sera envoyé du haut du ciel sur sa demande expresse à lui, le Seigneur Jésus, à son Père dans le ciel. Ce qu'il demande à cet égard, c'est ce que nous avons aussi, selon une expression d'acte 1, la promesse du Père. La promesse du Père, c'est l'envoi du Saint-Esprit, sitôt que Christ est élevé dans la gloire et glorifié, alors le Saint-Esprit est envoyé ici-bas pour former cette Église, qui existe déjà selon le conseil de Dieu, incluse qu'elle est dans le conseil de Dieu, dans ce mystère caché dès les siècles en Dieu. Mais son histoire commence à partir du jour de la Pentecôte, acte 2, accomplissement de la promesse du Père, l'envoi du Saint-Esprit sur la terre en ce jour-là. Donc, le ministère de Christ se continue encore après qu'il est ressuscité. Il s'occupe des siens. Et de quelle manière, nous l'avons dans ce si beau chapitre 24 de notre évangile, sans oublier l'avant-dernière scène, quand il se tient au milieu d'eux, qu'il leur montre ses mains et son côté. Et puis qu'ensuite, dernière scène, il les mène à Béthanie, et que ses mains qu'il leur a déjà montrées, il les élève vers le ciel pour les bénir. Voilà ce qui se trouve dans ce dernier si beau chapitre de notre évangile, enfin, du moins dans sa, parlons pas de ce qui concerne le premier jour de la semaine et le premier paragraphe, nous parlons essentiellement de ce qui a été le ministère de Christ encore après sa résurrection. Et si nous en parlons, c'est parce que c'est en relation avec le sujet qui est là, donc, c'est-à-dire Quelque chose, on ne peut pas, bien entendu, tout développer. Nous sommes si petits pour, dès que nous abordons cette personne de Christ, dans sa gloire, mais aussi dans son abaissement, dans son humanité. Le sujet, donc, quelque chose du chemin du Seigneur Jésus. Nous n'avons lu que ce qui concerne, en quelque sorte, ses derniers pas jusqu'à la croix. Mais ce quelque chose du chemin de Christ, ce quelque chose de son humanité, se prolonge quand il est ressuscité dans ce chapitre 24. Mais si nous n'avons fait que esquisser ce moment où il se trouve au milieu des siens, le premier jour de la semaine, nous pourrions quand même y revenir un peu, parce que justement, il est particulièrement en rapport, ce tableau du Seigneur montrant ses mains et son côté, il est tellement en rapport avec ce qui est devant nous. Le Seigneur Jésus montre ses mains et son côté. Voyez mes mains et mes pieds, pardon. Voyez mes mains et mes pieds. C'est dans Jean 20 que nous avons ses mains et son côté. Et c'est autre chose. Mais dans Luc 24, voyez mes mains et mes pieds que c'est moi-même. C'est la manière qu'il avait choisie pour se faire reconnaître. C'était les deux points caractéristiques par lesquelles les disciples ne pouvaient pas manquer de reconnaître leur maître. Bien sûr, nous dirions-nous, c'est avant tout des mains et des pieds percés. Et il était bien évident, bien clair, que nul autre que Christ ne pouvait avoir en lui-même des mains et des pieds percés et être en même temps vivant devant ses disciples. Parce que les mains et les pieds percés signifiaient la crucifixion et la mort inéluctable consécutive à la crucifixion. Étant bien entendu que Christ n'est pas mort consécutivement à la crucifixion, mais qu'il a laissé sa vie de lui-même. Ce n'est pas parce qu'il a été crucifié qu'il est arrivé à un point de souffrance tel que son corps est entré dans la mort. C'est bien clair. Mais en voyant des mains percées et des pieds percés, on ne pouvait que penser au divin crucifié. Les disciples ne pouvaient que penser à leur maître et dire « Oui, ce ne peut être que lui, puisqu'il est maintenant vivant, ressuscité devant nous, devant nos yeux, devant notre cœur. Voyez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même, mais c'est aussi ses mains et ses pieds, une preuve de son humanité. » Et c'est ce qui est devant nous, n'est-ce pas, chers amis, ce soir, son humanité, le chemin qu'il a suivi, des mains qui étaient celles que le Seigneur Jésus avait utilisées pour accomplir tant de miracles, tant de gestes de grâce, tant de gestes d'amour, de tendresse, d'affection à l'égard de cette créature dont il s'est approché comme étant le parfait Samaritain. Il vient au bord du chemin, personne n'a rien pu faire pour cet homme, mais c'est un mort, mais lui est là, il est ému de compassion, il voit, il se penche, il bande les plaies, il verse de l'eau et du vin, et puis il met sur sa propre monture, pas un mot, mais que des gestes d'amour. Il met sur sa propre monture, lui va à pied, il donne la force, et il conduit jusqu'à l'hôtellerie, et là, il y a un interversé, ce que j'appelle un interversé, c'est-à-dire ce qu'il y a entre un verset et le suivant, qui est lourd de sens. Le lendemain. Et qu'il dit le lendemain. Le lendemain, le Samaritain va s'en aller et il va donner les deux deniers à la perdue. Le lendemain. C'est-à-dire qu'entre ces deux versets, il y a eu toute la nuit qu'il a passé dans l'hôtellerie avec celui dont il a pris soin. Voilà un simple exemple rappelé brièvement de gestes de grâce et d'amour sans qu'une seule parole ne soit prononcée. Voilà le divin serviteur, le Fils de l'homme, homme humble et solitaire, plein de pitié pour nos malheurs. Voyez mes mains, oui. Est-ce que, chers amis, il n'y a pas des mains qu'entre 10 000 nous reconnaîtrions parce qu'elles ont été pour nous ces mains qui nous sont chères, tellement empreinte d'amour, d'affection, des mains d'une mère, les mains d'un père. Est-ce que nous ne reconnaîtrions pas ces mains si elles étaient là devant nous? Les mains de quelqu'un qui nous est cher, qui n'est plus là à nos côtés, que nous avons dû laisser dans le chemin. Ah, si nous trouvions ces mains devant nous. Ah, nous dirions oui, c'était ma mère, c'était mon épouse. Nous reconnaîtrions ces mains. Eh bien, le Seigneur Jésus, montrant ses mains à ses disciples, sans bien leur dire, écoutez, vous voyez bien l'homme que j'ai été avec vous dans le chemin, et vous me reconnaissez à mes mains et à mes pieds, parce que c'était avec ses pieds qu'il était allé dans le chemin. Ce chemin où il allait de lieu en lieu faisant le bien, c'est ses pieds que, c'est ce chemin, cette trace que les disciples avaient suivi en souvent, dans l'inintelligence de leur cœur, comme nous-mêmes, dans la stupéfaction, dans son l'expression de Marc 10, dans la stupéfaction et dans la crainte. Ne comprenons pas pourquoi il fallait qu'il monte à Jérusalem pour devoir y souffrir et y mourir. Les disciples, il faut le dire entre parenthèses, étaient souvent, bien souvent, sur le terrain juif. C'est-à-dire qu'ils espéraient que celui qu'ils escortaient allait se manifester comme étant le roi d'Israël et que le royaume allait être instauré. Et puis alors, en même temps, eh bien, ils espéraient, disons-le familièrement, avoir de bonnes places dans ce royaume. Ils espéraient leur gloire pour eux-mêmes, à la droite, l'autre à la gauche, comme le demandait la mère des fils de Zébédée dans le chapitre 20 de Matthieu. Voilà ce qu'ils espéraient. Et souvent, nous ne voyons peut-être pas autre chose pour nous-mêmes en suivant le Seigneur, c'est-à-dire un propre intérêt un peu égoïste, au lieu de comprendre un peu mieux celui que nous avons à suivre du regard, à ne jamais laisser, à ne jamais abandonner de nos yeux. Il y a quelqu'un dans cet évangile même qui est un exemple de cette fixation du regard sur une personne. Elle ne l'a pas abandonné de ses yeux. C'est cette femme dans la ville, cette pécheresse, triplement anonyme. Quel est son nom, on ne sait pas. Quelle est la ville, on ne sait pas. Quel est son péché, on ne sait pas. Voleuse, prostituée, peu importe. C'est une femme dans la ville, pécheresse. Et le pharisien ayant invité le Seigneur, et le Seigneur ayant accepté d'entrer dans cette maison, la femme savait qu'il était là. Elle l'avait suivi. Pourquoi ? Parce que cette personne avait du prix pour son cœur. Quelle qu'elle soit, dans quel état qu'elle se trouve à ce moment-là, le Seigneur remplissait son cœur et, en quelque sorte, à aucun moment, elle ne l'a perdu des yeux. Elle savait qu'il était là. Une application pour nous, hein, chers amis. Est-ce que nous savons toujours où est le Seigneur ? Est-ce que nous ne le perdons pas des yeux à un moment ? Est-ce qu'il n'y a pas un nuage qui vient nous dérober sa beauté ? Est-ce qu'il remplit nos cœurs ou bien est-ce que par moment il n'y a pas un certain trouble dans la communion, une certaine perte de la jouissance de cette personne ? Ah, le Seigneur le sait. Quelquefois mieux que nous-mêmes, il sait bien que nous nous sommes un peu écartés. Il nous reprend dans sa grâce, il nous ramène à lui, pas quelquefois d'une manière douloureuse. Ses voies ne sont pas nos voies, ses manières de faire ne sont pas toujours ce que nous aurions souhaité. Si même nous avons demandé qu'il y ait davantage de communion, ah, il nous répond quelquefois d'une manière bien douloureuse. Mais c'est sa manière et le but qu'il poursuit, c'est que nous jouissions de lui et que nous soyons tout près de lui comme cette pécheresse qui se tenait derrière à ses pieds, qui a arrosé ses pieds de ses larmes. Est-ce que nous savons, bien chers amis, assez adorés aux pieds du Seigneur, conscients, certes, des 500 deniers que nous devons, mais surtout conscients de ce qu'il est lui, quelqu'un qui ne rejette pas, quelqu'un qui ne montre pas du doigt, quelqu'un qui ne méprise pas, quelqu'un qui accepte, quelqu'un qui veut bien que nous allions jusque près de lui, nous-mêmes jouissant de cette liberté de la grâce dont il est fait déjà allusion au début du chapitre 6 de l'évangile de Luc, quand les disciples froissés, les épis dans leurs mains en un jour de sabbat, ils jouissaient des bénédictions dans la liberté de la grâce. Eh bien, cette femme jouit à la fois de cette liberté de la grâce et en même temps, elle est émue par une foi qui l'a conduite à s'avancer dans une maison où elle n'aurait pas dû être, méprisant toutes les barrières, tous les blâmes qu'elle risquait, elle va jusqu'à Jésus. Voilà, est-ce que nous avons cette fixation de regard pour la personne de Christ ? Nous disons cela donc à propos de cette expression, voyez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même. Est-ce que nous savons toujours voir le Seigneur là où il est ? Mais encore nous pouvons dire que quand nous sommes assemblés autour de lui, physiquement étant là sur un banc de local, sur une chaise, est-ce que moralement nous savons qu'il est là ? Est-ce que nous réalisons vraiment qu'il est là ? Est-ce que dans nos cœurs nous sommes engagés assez pour lui, lui-même est remplissant nos cœurs de son propre amour, mais engendrant des affections pour sa personne, de telle manière que nous savons que quand nous sommes assemblés en son nom et autour de lui, vraiment, il est là. Quelquefois, nous sommes là physiquement, mais moralement, nous sommes absents. Moralement, nous sommes ailleurs. Il n'a pas la première place. Ceci dit donc, entre parenthèses, voyez mes mains, mes pieds, que c'est moi-même. C'est son humanité, c'est son chemin, allant de lieu en lieu, faisant le bien. C'est un chemin qu'il a suivi, humble et solitaire. Si nous comparons les trois scènes de la Transfiguration, dans Matthieu 19, dans Marc 9 et dans Luc 9, et que nous nous attachions à comparer la fin, nous verrons que la fin de chacune des scènes, selon ce qu'elle nous est rapportée dans chacun des trois évangiles, nous verrons que cette fin est en rapport avec le caractère de chaque évangile. Alors, qu'est-ce que nous avons dans Matthieu ? Ils ne virent plus personne que Jésus seul. Jésus est le centre. Il est le centre des relations entre le peuple d'Israël. Il est le centre quant aux relations avec son peuple d'Israël. C'est lui qui est le Messie. Et en même temps, il est le centre quant au rassemblement et quant à l'assemblée. Donc voilà pourquoi, dans Matthieu, il ne voit plus que Jésus. Dans l'évangile de Marc, Jésus se trouva seul avec eux. On ne va pas se tromper d'expression. Marc 9. Ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul avec eux. Et cela, c'est une expression bien caractéristique de cet évangile qui nous montre le Seigneur avec ses disciples. C'est l'évangile du chemin. C'est l'évangile que le Seigneur Jésus a suivi, le chemin que le Seigneur Jésus a suivi. Et ce chemin s'infléchit à partir du chapitre 7. Jusqu'au chapitre 7, il se déroule dans un cadre particulier, lié au synagogue et surtout lié à la mer avec des nacelles. À partir du chapitre 7, le Seigneur Jésus a envers Tyr et Sidon, le chemin s'infléchit et se dirige surtout vers Jérusalem. Et il est question encore d'une nacelle au chapitre 8, mais il en est terminé, c'est vers Jérusalem qu'il va, et vers le temple, et dans cette partie, dans cette deuxième partie de l'évangile de Marc, nous avons au moins sept passages où s'annoncent la mort, les souffrances et la résurrection de Christ. Le chemin est différent à partir du chapitre 7. Mais disons que dans cet évangile du chemin, le Seigneur Jésus se trouve avec les siens et au chapitre 3, il en appelle 12 pour être avec lui. Et nous voyons au chapitre 10, monté vers Jérusalem, il est là avec ses disciples. Et tout à la fin de l'évangile, eh bien, nous voyons encore le Seigneur Jésus dans cette compagnie, coopérant avec les siens qu'il a envoyés dans cet évangile prêcher. À la fin de Matthieu, il envoie des baptiseurs. À la fin de Marc, il envoie des prêcheurs, et à la fin de Luc, il envoie des témoins. À la fin de l'évangile de Jean, deux sacrificateurs, pourrait-on dire, et des serviteurs qui marchent à sa suite. Donc, dans cet évangile du chemin, nous voyons le Seigneur Jésus prêcher, enseigner. C'est le premier motif pour lequel il est venu ici-bas. Nous en avons le témoignage à la fin du premier chapitre. C'est pour cela que je suis venu, pour prêcher. Le deuxième motif, au chapitre 2, il est venu pour chercher non pas des justes, mais des pécheurs. Et troisième motif, au chapitre 10, non pas pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Voilà donc celui qui enseigne, celui qui est l'ambassadeur de Dieu, celui qui est l'envoyé de Dieu, et comme tel, donc, il sert Dieu. Comme tel, il est le serviteur. Nous y arrivons à ce caractère si souvent répété. Mais nous avons donc devant nous un chemin qu'il suit, et qu'il suit avec ses disciples, et ses disciples avec lui. Et donc, à la fin de la scène de Transfiguration, Marc 9, le voilà qui se trouve seul avec eux. Et dans Luc 9, eh bien, Jésus se trouva seul des douze. Voilà l'homme humble et solitaire. C'est un exemple pour nous. Nous l'avons exprimé un peu dans ce cantique. Suivre le Seigneur Jésus dans son chemin, dans son humilité profonde. Quel exemple pour nous qui aimons bien avoir à côté de nous tel soutien, tel aide, tel secours. C'est difficile de marcher seul. C'était la hantise de Marc. Ne te mets-tu pas en souci de ce que ma sœur me laisse toute seule à servir. Toute seule. Et elle a dû apprendre ensuite à servir comme il convient, nous la retrouvons dans Jean 12, servant, tout simplement. Et Marthe servait. Chacun est à sa place. Il y a une bienheureuse et harmonieuse communion dans cette maison de Béthanie. Lazare représente le terrain sur lequel se déploie le service, un terrain de résurrection et de vie. Marie est là pour accomplir aussi le service qui est sa part, qui n'est pas celui de Marthe, mais Marthe sert. C'est cela dans l'assemblée, la pluralité, mais en même temps la communion. Il y a diversité de services, chacun à remplir son service selon la mesure de foi qui lui est départie, expression de l'Épître aux Romains, chapitre 12, et selon la mesure de grâce qui est la sienne. Il n'a pas à imiter tel ou tel, il a discerné ce pourquoi le Seigneur l'a appelé. Et le voilà qui avance dans son chemin, ne cherchant pas à avoir l'aide, le secours, le moyen humain si nécessaire, que nous pensons indispensable. Mais si nous avançons avec foi, la foi ne comptant que sur Dieu, à ce moment-là nous avancerons seuls, mais Dieu saura nous donner, au moment voulu, l'aide qui est nécessaire. Et nous pensons souvent à cet exemple de Joseph d'Arimathée, qui s'est avancé tout seul, bien qu'il soit craintif, en disciple, en secret, par crainte des Juifs. Il s'avance tout seul vers Ponce Pilate, les barrières sont ouvertes. Il pensait peut-être avoir beaucoup de difficultés, mais voilà que les barrières sont ouvertes. Rien n'arrête la foi. Rien n'a arrêté la foi de la pécheresse dans Luc 7. Rien n'arrête la foi de cet homme, Joseph d'Arimathée, qui prend sur lui d'aller vers Ponce Pilate. Et nous savons la suite. Il achète un linceul, il s'occupe du corps de Jésus. Et puis, au moment venu, il a l'aide nécessaire. Providentiellement envoyé par Dieu, qui avait le souci de son fils, de son moins, mais aussi de cet humble serviteur qui était disponible au moment voulu et qui l'a aidé en envoyant Nicodème, un homme craintif aussi qui était allé de nuit à Jésus. Mais voilà ces deux hommes faibles qui servent comme par la force que Dieu fournit, un Pierre 4, comme par la force que Dieu fournit. C'est cela qui compte dans le service. On peut se trouver seul. C'est difficile. C'est une leçon difficile à apprendre. Mais voilà Jésus qui est là dans nous, seul dans son chemin. Seulement son chemin. C'était l'homme, c'était le chemin de l'homme parfait, le chemin de l'homme de foi. Il est le chef et le consommateur de la foi. Le consommateur, celui qui a accompli en quelque sorte la foi à tous égards. Il est notre modèle à cet égard. Il était seul, mais il était l'homme de foi, le consommateur de la foi. Et lui seul a pu dire d'une manière parfaite, « Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. Je me confie en toi. » Quel homme comme lui a pu dire cela pleinement et parfaitement? Il était l'homme de confiance, l'homme de foi, l'homme parfaitement dépendant. Qu'est-ce que c'est que la dépendance? Oh, c'est facile d'expliquer en prenant un exemple. Prenez un petit bébé qui vient de naître, même s'il a encore, s'il a quelques mois de plus, 6 mois, 8 mois, c'est un être parfaitement, complètement dépendant. Prenez une personne âgée, handicapée, qui ne peut se suffire à elle-même, elle est complètement dépendante. Pour tout acte, pour quoi que ce soit, pour les éléments les plus courants de la vie, l'un comme l'autre, ont besoin d'une tierce personne. Ils ont besoin de quelqu'un qui soit là pour aider, pour faire ce qu'ils sont incapables de faire. Ils sont sans force, sans moyens, sans puissance. Et un frère avait écrit une lettre dans les années, enfin la plus j'ai publiée dans les années 50, sauf erreur, du messager. C'était un père qui avait eu, pendant de longues années, peut-être une vingtaine d'années, à ses côtés, un fils infirme, handicapé. Et ce fils était complètement dépendant de lui. Et il peut dire, ce cher père, ayant perdu d'ailleurs cet enfant, combien il avait été indispensable à la vie de cet enfant. Il lui servait, dit-il, de jambes, il lui servait de bras, il lui servait de mains, il lui servait même d'ongles. Et le fils, rapportait-il, était si heureux de faire appel au Père, sans arrière-pensée, en toute liberté, il demandait sans cesse à son Père de l'aider, de le secourir. C'était un fils complètement dépendant, bien sûr, par force, mais quelle chance pour ce qui nous concerne, et le Père était tout heureux de répondre à la foi, à la confiance et à la dépendance du Fils. Eh bien, c'est un exemple, une illustration pour nous quant à ce qui nous concerne. Voilà ce que c'est que la dépendance. C'est ne pas compter sur nos propres moyens, sur notre propre force, mais le dire au Seigneur, voilà, je suis complètement infirme. C'est de Corinthiens 12. Prendre plaisir en ses infirmités, dans sa propre faiblesse, le mot est semblable, parce que la puissance du Seigneur s'accomplit dans cette infirmité. Et quand on est faible, alors on est fort de la force qui vient de Dieu, qui vient du Dieu qui répond à notre attente et à notre demande. Le Seigneur Jésus a expérimenté cela. Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. Et nous avons pu voir dans ces passages combien Dieu prenait soin de lui et combien il répondait à la demande de cet homme parfait. Cet homme qui allait, selon son usage, à la montagne des Oliviers. Et là, il sortait, nous est-il dit, il sortait et il allait à la montagne des Oliviers. Il avait enseigné tout le jour dans le temple, mais les nuits, il sortait et demeurait. Il y a dans cette montagne des Oliviers, telle que nous la voyons ici, comme une allusion au sanctuaire, le lieu de la communion avec notre Dieu et Père. Il fallait qu'il sorte de ce monde, qu'il sorte figure, bien entendu, moralement, plutôt qu'il sorte moralement de ce monde et qu'il aille à la montagne des Oliviers, et là, il demeurait. C'est une expression que nous retrouvons dans les psaumes qui nous parlent du sanctuaire, par exemple au psaume 27, verset 4, j'ai demandé une chose à l'Éternel et je la rechercherai, c'est que j'habite, demeurez, j'habite, c'est la même pensée, que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour voir la bonté de l'Éternel et pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. Car au mauvais jour, il me mettra à couvert dans sa loge, il me tiendra caché dans le secret de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Retrouvez encore d'autres expressions que nous connaissons bien dans ce livre des psaumes, mais cela allongerait, où il y a la pensée de l'habitation, de la demeure dans la maison de l'Éternel, et en rapport avec cette notion de communion réalisée. Et le Seigneur Jésus, comme homme, donc, demeurant en quelque sorte dans le sanctuaire, goûtait une communion précieuse avec son Dieu et Père, et plus encore des communications. Dans le psaume 25, nous lisons au verset 12, qui est l'homme qui craint l'Éternel et lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Au verset 14, le secret, et la note nous dit, des communications intimes, le secret de l'Éternel est pour ceux qu'il craignent, pour leur faire connaître son alliance. N'a-t-il pas été cet homme dépendant, cet homme de foi, cet homme qui a accompli la foi, n'a-t-il pas été celui qui craignait l'Éternel, celui qui recherchait donc cet enseignement, ces secrets de communication, non pas comme fils de Dieu, mais comme étant l'homme, le fils de l'homme, comme nous le voyons en Luc. Quoi qu'encore, dans l'évangile de Jean, il nous présente le Fils de Dieu, eh bien, le Seigneur Jésus rend témoignage dans le chapitre 12, rend témoignage à ce fait qu'il cherchait auprès de son Père ce qu'il avait à dire et comment il avait à le dire. Là encore, nous voyons, et c'est une des merveilles de la parole, de nous montrer à la fois le Fils de Dieu et sa parfaite dépendance comme homme. En même temps, nous connaissons bien ces méditations qui ont été faites sur le pain coton tord, la pourpre, l'écarlate, le bleu qui était broché avec de l'or. L'or qui nous parle de sa nature divine, et puis le fin coton retors, et le bleu, le pourpre, l'écarlate, avec différents caractères de ce qu'il était comme homme, un homme venu du ciel. Le bleu, la pourpre, c'était le signe de sa royauté comme fils de l'homme, celui que Dieu a désigné pour exercer le jugement et la royauté. Comme homme, l'homme qu'il a voulu pour cela, nous avons cette expression dans le livre des Actes. Et puis l'écarlate, cela faisait appel à ses gloires en tant que parfait sacrifice, à ce qu'il a été quand son sang a été répandu. Eh bien, voilà donc dans l'évangile de Jean, celui qui, dans sa parfaite dépendance, demandait à son Père ce qu'il avait à dire, c'est à la fin du chapitre 12 de Jean, ce qu'il avait à dire et comment il avait à le dire. Eh bien, le voilà donc allant dans la montagne des Oliviers, y demeurant dans ce sanctuaire, recherchant la communion du Père pour avoir l'enseignement quant au chemin à suivre, ayant aussi les secrètes communications de la part de l'Éternel. Et cet homme de foi, cet homme dépendant, a été aussi donc cet homme humble et solitaire, et Dieu, au mauvais jour, l'a secouru. C'est un côté justement lié à l'humanité de Christ. C'est qu'il a eu besoin comme homme, dans son intimité, dans sa faiblesse, de secours, de joie, de quelque chose qui lui était nécessaire dans le chemin. Pensons bien au psaume 110, il boira du torrent dans le chemin. Et cela aussi serait un sujet qui nous conduirait dans l'évangile de Luc comme une ligne directrice, voir les moments où le Seigneur Jésus a pu boire du torrent dans le chemin. Nous parlions tout à l'heure de Luc 7, la fin de Luc 7, cette femme qui a couvert ses pieds de baisers. Que de tendresse, que d'affection pour Christ, auquel il n'a pas manqué d'être sensible. Ce vase d'albâtre, qu'est-ce que c'est que l'albâtre? C'est un gypse très fin, délicatement coloré, dit le dictionnaire. Eh bien, rien que par ses caractères physiques, nous voyons ce que cela suggère moralement, la finesse, la délicatesse. Et en rapport avec ce qu'était cette femme, devant tant de gloire et tant de dignité, que pouvait-elle apporter? Quelque chose qui est son propre vase, en dehors de toute notion de péché, mais voilà cette finesse, cette tendresse qui résulte non pas de ses caractères personnels, mais qui résulte de ce que Christ a opéré en grâce dans ce cœur. Et c'est cela qu'elle apporte, il est plein de parfum, c'est l'appréciation de la personne de Christ. C'est ce que Christ aussi a produit en elle. Et puis, elle essuie ses pieds de ses cheveux. Il n'y avait rien de plus glorieux de sa propre part qu'elle puisse apporter aux pieds de celui dont elle discernait quelque chose de la beauté et de la gloire. Il n'y avait que ses cheveux qu'elle puisse mettre aux pieds du Seigneur. Et elle le fait. Mais cela aussi, ce n'est pas de par sa propre volonté, c'est progressivement. Tout cela est renouvelé. Tout ça, c'est la vie de Christ en elle. Il a rempli son cœur en un instant. Ah, elle n'a pas fait un long chemin, la suite du Seigneur. Le malfaiteur, dont nous n'aurons peut-être pas le temps de parler, non plus, il n'a pas fait un long chemin à la suite du Seigneur. Mais Jésus remplissait son cœur de ce malfaiteur comme de cette femme. Et ça a été l'occasion pour le Seigneur Jésus de boire du torrent dans le chemin. Tant de tendresse, tant d'affection. Nous ne pouvons pas imaginer que cette femme ait eu des gestes brusques pour essuyer les pieds du Seigneur. Ça a été des gestes de femme, des gestes de tendresse et d'affection. Et le Seigneur Jésus n'a rien fait pour la repousser. Il l'a laissé faire. C'était de l'eau qu'il pouvait voir. C'était une voix qui était sa part à lui. D'ailleurs, on peut dire, entre parenthèses, que dans bien des portions de la parole, nous avons deux manières de lire. Il y a une manière qui nous concerne, nous. Nous lisons un texte, comme par exemple ce passage de Luc 16, comme par exemple ce passage de Luc 23 à propos du malfaiteur, et nous l'appliquons à ce que nous sommes, morts dans nos fautes, dans nos péchés, à ce que Christ est pour nous. Première lecture. Et puis deuxième lecture, ce qu'il y a dans ce passage pour Christ. Or là, nous découvrons des trésors. Ce que le Seigneur Jésus a pu ressentir quand il était là en Jean 20, le premier jour de la semaine, au milieu de ses disciples. On voit la joie des disciples, ils se réjouissent, mais vous soyez, ah, et pour nous aussi, premier jour de la semaine, nous sommes là, nous voyons le Seigneur, nous sommes remplis de joie, remplis de paix. Et la part de Christ. Et la joie de Christ. Ah, l'Esprit Saint nous transporte. Et nous transporte hors de nous-mêmes pour nous donner de jouir de la part de Christ et de la joie de Christ. Et cela est profondément enrichissant. Cela nous amène à comprendre quelque chose de cette personne, avoir communion avec lui, avoir communion avec celui qui bénit, n'étant pas attaché tellement aux bénédictions qui découlent, cette paix, cette joie, tout ce qu'il y a pour nous, n'étant pas tellement attaché à ces bénédictions, mais étant attaché à une personne, la personne de celui qui bénit. Cette femme était attachée à lui, le malfaiteur l'était aussi. Dieu a pris soin de son saint au mauvais jour. Il lui a donné le secours dont il avait besoin. Donc, nous l'avons vu dans le chapitre 22, allant à Gethsémané. Encore une fois, il y retourne. C'est la dernière fois. Il y a sur cette montagne et dans ce jardin. Quelle scène, quel combat. Et au cinq, lève le voile, nous montre un peu ce que Christ a connu, un peu plus encore que ce que nous donne à connaître les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Nous avons un peu plus dans l'Épître aux Hébreux, qui nous parle de ses cris, de ses supplications, de sa prière, et le fait qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Là aussi, ce sont des choses qui sont bonnes à méditer. Dieu reconnaissant ainsi en Christ un triple droit. Le droit qu'il avait comme sacrificateur, le droit qu'il a glorifié comme tel, comme sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, et un peu plus loin, il l'a dit, il l'a salué. La salutation n'est pas un bonjour banal, nous osons à peine le dire, mais c'est un geste qui est lié à l'estime et à l'honneur. Ainsi, Dieu a salué son Fils comme souverain sacrificateur. Mais il l'a d'abord glorifié, et c'est un droit à la sainte créature qui lui est reconnu. Ensuite, il lui a donné une reconnaissance de son droit de prééminence et d'aînesse au-dessus de ses compagnons. Il l'a glorifié en disant « Tu es mon Fils ». Cela aussi est mentionné en Hébreux 5. Et en Hébreux 1, il était dit qu'il l'avait moins d'une mille de jours au-dessus de ses compagnons. Et puis, il lui a reconnu un droit à la vie, selon l'expression du psaume 21. Il l'a exaucé à cause de sa piété. Cela est dit, entre parenthèses, en rapport avec cette scène de Gethsémané. Et là, il s'étant mis à genoux, il priait le Père. Et puis voilà que cet homme, dans son infirmité, nous pouvons parler d'infirmité, parce que de Corinthiens, dans son dernier chapitre, la deuxième épître de Corinthiens, dans son dernier chapitre, nous dit qu'il a été crucifié en infirmité. Et le mot infirmité, c'est le mot faiblesse. C'est le mot sans force que nous avons dans Romains 5, alors que nous étions encore sans force. Voilà, tel a été notre précieux Sauveur comme homme. Et il a fallu que le Père lui envoie, parce que c'est au Père qu'il a affaire en cet instant, lui envoie un ange du ciel pour le fortifier. Il se trouva seul, Luc 9, à la fin de cette scène de la Transfiguration, mais Dieu a permis, prenant soin de son moins, qu'il ait au moment opportun le secours, l'encouragement dont il avait besoin dans son chemin comme homme, même s'il était un homme parfait. Un ange du ciel lui a paru le fortifiant, et voilà un détail spécifique de Luc. Luc, le médecin bien-aimé, celui qui donne toujours dans son évangile la note, le détail humain, nous présente le Fils de l'homme et raconte son évangile un peu comme une histoire d'homme. Et nous avons toujours des détails humains relativement à un homme. C'est ce qui fait une des beautés de cet évangile, nous voyons tout au long. Eh bien, comme il priait, Il étant dans l'angoisse, il tomba et priait plus instamment. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant sur la terre. Tel a été notre sauveur dans ce combat, comme un homme souffrant, souffrant dans son corps, manifestation et témoignage en étant rendu par ces grumeaux de sang. On reste à un jet de pierre. Ce n'est pas pour rien que la précision est donnée. Nous restons à un jet de pierre. Et puis même, on peut dire que, un peu comme les disciples, devant tant de souffrance, devant un si grand combat, nous nous endormons. Parce que nous n'entrons pas assez dans les choses. Et pendant un certain temps, peut-être, nous sommes intéressés, notre cœur est pris, et puis, au bout d'un certain temps, nous nous lassons. Nous aussi, nous sommes dans les temps d'infirmité. Nous sommes aussi dans la faiblesse. Viendra un jour où nous comprendrons mieux, quand nous serons dans le ciel, quand notre corps d'infirmité sera été transformé en la conformité du corps de sa gloire. Alors nous comprendrons tout son amour, comme nous chantons, et qui dit amour, dit souffrance. Alors ensuite, nous avons ce relâchement de Barabbas, ces femmes qui se frappent la poitrine et qui pleurent, cela aussi c'est un encouragement que Dieu permet. Quelle que soit la signification symbolique de ces femmes en rapport avec le peuple d'Israël, nous n'avons pas lu la suite. Simplement ce détail, elles se frappaient la poitrine et le pleuraient. Et le Seigneur Jésus est passé là. Il y a un homme, comme nous le racontent les trois évangiles, cela n'est pas donné dans l'évangile de Jean, l'évangile de Dieu. Dans les trois évangiles, ce détail nous est donné qu'un Simon, le Cyrénéen, père d'Alexandre de Dreyfus, comme nous l'avons dans l'évangile de Marc, sans doute des gens qui étaient connus par les croyants de l'époque, peut-être même c'était des croyants, c'était Alexandre de Dreyfus, peut-être Cyrénéen, Simon le Cyrénéen l'était-il aussi, quoi qu'il en soit, Dieu a permis qu'il y ait cet homme qui revenait des champs. En quelque sorte, il semblait complètement étranger à toute la scène qui venait de se dérouler, mais il lui est accordé ce privilège, cette part, de pouvoir porter la croix après Jésus. Et puis voilà donc ces femmes qui montrent de la sympathie, qui pleurent avec ceux qui pleurent, comme nous lisons dans Romains 12. Et le Seigneur Jésus n'est pas resté insensible devant ce spectacle, lui qui passait montant vers Golgotha. Ah, il montait et pleurait, comme nous l'avons dit à propos de David, David, le roi rejeté. Le roi rejeté, voilà l'écriteau qui est placé sur sa croix. Celui-ci, le roi des Juifs. Oui, le roi rejeté, le roi méprisé. Il a eu quand même en spectacle ces femmes qui pleuraient sur lui. Vous pensez que ça a été un encouragement, une eau dont il a pu prendre dans le chemin, avant d'aller jusqu'au lieu où il a été crucifié. Et là, tout le monde se moque de lui, les gouverneurs, les soldats, le peuple, les gouverneurs, les soldats aussi se moquaient de lui, et ce malfaiteur, verset 39, qui l'injuriait. Tout le monde s'est lié contre lui. Et tout le monde, et Satan, qui était prince et qui est prince de ce monde, devait se réjouir en pensant qu'enfin, ils allaient être débarrassés de Christ, le Fils de Dieu. Qu'enfin, dans sa septième entreprise, Satan allait se rendre maître de celui dont, depuis le commencement, il essayait d'usurper les droits et la gloire. Malgré tout, ce que Dieu avait tant en vue pour manifester son amour et sa grâce allait s'accomplir. Et voilà, entre deux malfaiteurs, il y en a un qui continue à l'injurier, et nous avons l'autre malfaiteur. En fait, dans cette scène, nous ne l'oublions pas, il y a trois malfaiteurs. Et il y a Barabbas. Il y a un malfaiteur qui injurie jusqu'au bout la personne, notre précieux et glorieux sauveur. Et il y a l'autre qui est repentant et qui dit ce que nous avons lu au Seigneur Jésus, mais il y a Barabbas. Barabbas savait très bien qu'il allait être conduit au supplice en ce jour-là. Et puis voilà que les portes de la prison se sont ouvertes. Il a dû être renseigné, sans doute, sur ce qui s'était passé, sur la volonté du peuple qu'il avait préféré, le meurtrier, le brigand. Il avait préféré, lui, Barabbas, à celui qui était le saint et le juste, il le savait. La parole ne nous dit rien sur lui, parce que nous n'avons rien à en savoir. C'est Dieu qui sait ce qu'il a fait de cet homme, mais quand même. Est-ce qu'il ne nous ferait pas penser, dans une mesure, aux enfants de parents chrétiens, qui savent. Ils savent beaucoup de choses, les enfants de parents chrétiens. Et ils en sont d'autant plus responsables. Ils savent que Christ est mort. Ils savent pourquoi Christ est mort. De loin dans la foule, depuis Jérusalem, sur Golgotha, ils le voient. Et eux, ils sont là. Ils auraient pu être là-haut, sur le gibet, mériter que la mort et le jugement. Et Christ est mort. Ils le savent. Et ils ne se décident pas. C'est une image de l'humanité qui ne choisit pas. Non pas l'humanité qui se moque de Christ, comme le palpiteur qui est à côté du Seigneur Jésus, mais, je dis bien, les enfants de parents chrétiens qui ont une responsabilité parce qu'ils savent et qu'ils se tiennent en arrière. Que dire de plus? Ils ont une intelligence, ces enfants, auxquels peut-être cette parole s'adresse ce soir. Et ils peuvent juger, ils peuvent comprendre l'application qui en est faite, à tous égards. Que ce soit pour la conversion, pour le salut de leurs âmes, que ce soit aussi pour un autre engagement. L'engagement à la suite de celui qui a aimé l'Assemblée, qui s'est livré lui-même pour elle, nous le voyons un peu plus tard. Mourant pour nous, mourant pour celle qui veut s'acquérir pour lui-même. Alors vous restez en arrière, vous restez à Jérusalem. Alors il y a un malfaiteur qui injurie, et puis il y a l'autre. Ah, comme on l'a dit souvent, il n'a pas reçu de grande leçon celui-là. Dans sa maison, qu'est-ce qu'on lui a appris? Oh, sûrement pas ce qu'était le Messie, roi d'Israël. L'être n'a-t-il jamais lu la loi et les prophètes? Mais voilà que son cœur est saisi. Peut-être est-ce cette parole du Seigneur Jésus qui l'a profondément mué et qui vient d'entendre tout à l'heure, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Peut-être cela l'a-t-il amené à réfléchir sur son tas. Je vois quelqu'un qui souffre là et qui prie pour ses défauts. Peut-être cela l'a-t-il profondément remué. Mais il ne suffit pas d'être remué. Il ne suffit pas que les sentiments soient exercés en quelque sorte. Non. Il faut la connaissance de la gloire et de la sainteté de Dieu. Et c'est ce que ce brigand va reconnaître, ce dont il va rendre témoignage. Premièrement, et tu ne crains pas Dieu, toi qui es sous le même jugement. Donc, c'est qu'il a discerné dans son voisin de supplice, ce Jésus qui est là à côté de lui, c'est qu'il a discerné dans cette personne un Dieu manifesté en chair, qui est sous le même jugement que ce Dieu que tu ne crains pas. Premièrement. Et c'est toujours la démarche d'une âme, c'est de reconnaître qu'il se trouve dans la présence de Dieu. On ne se repent pas le dos tourné à Dieu. On se repent dans la lumière de Dieu, face à Dieu. Se repentir le dos tourné à Dieu, cela n'est que du remords. Et cela ne peut pas amener à la conversion, cela ne peut pas amener au salut. Mais voilà qu'il voit déjà dans Dieu. Dieu qui est là. Un Dieu manifesté en chair. Et deuxièmement, pour nous, nous y sommes justement, nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Voilà la confession de son état. Il reconnaît qu'il ne mérite que le jugement et que la mort. Parce que il est un être souillé. Il est un être qui ne peut s'acquérir une quelconque justice. Il mérite, il est sous le coup du châtiment des hommes et du châtiment de Dieu. Nous y sommes justement. C'est une sentence juste. C'est une sentence juste qui atteint en ce moment et qui atteint l'autre malfaiteur. C'est donc le deuxième point, la reconnaissance de sa culpabilité. Troisièmement, celui-ci n'a rien fait. Alors là, c'est la reconnaissance de la sainteté et de la justice du Seigneur Jésus. Il n'a rien fait qu'il se fait. C'est l'homme parfait, c'est l'homme saint, c'est l'homme juste. Cela fait penser à Pierre dans le chapitre 5 de ce même évangile. « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Il a la conscience de la gloire, mais aussi de la sainteté et de la justice de Dieu. Et ensuite, il peut dire... Il disait à Jésus, souviens-toi de moi, Seigneur. C'est la pensée des droits, de l'autorité, de celui qui l'a confessé comme Dieu, de ce qu'il a reconnu comme étant le Saint et le Juste. C'est le Seigneur. Quand tu viendras dans ton royaume, c'est le discernement de sa royauté et de sa puissance. En même temps, oserions-nous dire qu'il voit en Jésus le sacrificateur auprès duquel on peut s'approcher pour intercéder. Souviens-toi de moi, n'est-ce pas une prière? Et il le disait, il ne l'a pas dit une fois. Il y a un temps de verbe qui nous montre là que sans doute il l'a répété cette demande. Et que le Seigneur ne lui a pas répondu tout de suite, parce que c'est bien dans la manière de faire du Seigneur, à notre égard, pour nous mettre à l'épreuve, quant à notre foi, quant à notre amour, quant à notre attachement pour lui, il reste silencieux. Le Corinthe pouvait dire dans le psaume 44, « Pourquoi dors-tu, Seigneur ?» Comme dans Marc 6, sur la mer démontée, le Seigneur Jésus dormait sur un oreiller. Et nous sommes quelquefois que ce Seigneur silencieux, ce Seigneur qui ne répond pas tout de suite, c'est quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui nous oublie, il nous met à l'épreuve. Pour sa propre gloire, il veut que soit manifesté dans ce brigand véritablement il y a chez lui le discernement de ce qu'il est, lui, le Seigneur Jésus. Il veut que soit manifesté sa foi, son engagement au Christ. Alors, il est inconvenable et voulu pour lui, Jésus lui dit. Le brigand disait, Jésus lui dit, « En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Pensons, en dehors de la leçon que nous avons au travers de ce malfaiteur, ce que nous avons quelque peu dégagé, pensons à la joie du Seigneur. Ma coupe est pour moi. Ah, il allait boire une coupe amère, mais il y avait là devant lui en cet instant une coupe qui était comble en la présence de ses ennemis. Ils étaient là, tous ses ennemis, le peuple, les gouverneurs, les soldats, ce méchant malfaiteur, mais voilà que cette coupe était comble. Quelle joie pour lui d'entendre ce témoignage. Une dernière joie sur la terre avant de traverser les 3 heures de ténèbres. Verset 43, aujourd'hui tu seras avec moi. Verset 44, il était environ la 6e heure. Il était ténèbres. Dieu a permis que dans ta grande Christ Jésus, il y ait là, juste avant la 6e heure, quelque chose pour son cœur, pour le rafraîchir au dernier moment. Il a permis cela. Ah, de quel amour il regardait la face de son loin, les pas de son loin, pour reprendre les expressions des psaumes. Et il lui a envoyé ce qui lui était nécessaire au mauvais jour, au mauvais jour. Nous sommes émerveillés devant l'amour de Dieu à l'égard de son Fils, devant cette scène, là où le Seigneur Jésus a été tellement rafraîchi avant de traverser les 3 heures sombres. Il allait dire, j'ai soif. Mais quel rafraîchissement. Alors il peut dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et en dit cela, il expira. Un dernier témoignage, que Christ comme homme n'entend pas, le centurion glorifie Dieu, cet homme était juste. Pourquoi regarder un tel chemin? Pourquoi nous arrêter un peu sur cette humanité de Christ, sur ce qu'il a trouvé lui-même dans le chemin? Eh bien, c'est parce que, comme nous lisons dans 1 Pierre 2, nous avons été appelés à cela, c'est-à-dire à suivre ses traces. Heureux de pouvoir trouver, comme lui-même l'a trouvé comme homme, le rafraîchissement dont nous avons besoin au milieu des circonstances, au milieu de l'amertume que nous pouvons connaître et peut-être même du découragement. Mais le Seigneur Jésus n'a jamais été découragé, cela va sans dire. Mais dans les circonstances que nous avons rappelées et dans d'autres encore, nous voyons comment Dieu a pris soin de lui et s'est plu à le rafraîchir et à le fortifier. Eh bien, il l'a fait pour son Christ.
Il le fait aussi pour nous, nous le savons. Que nous regardions toujours ce modèle inimitable, que jamais nos yeux ne se détournent de Christ, et puis si quelquefois un nuage vient nous dérober sa beauté à midi 20, après l'orage toujours brille la clarté.
Oh, my God.